Bon, en fait, on pourrait parler des heures de ce qu'a fait William Barr, mais là, il vient nous parler d'un thème pour lequel il est particulièrement compétent et j'ai hâte de l'entendre sur cette question et autour de laquelle on a tourné tous d'une certaine façon cet après-midi, qui est la question de la philosophie chrétienne, qui aura été aussi un débat enfiévré, ouvert par Breillet, plus ou moins, et Gilson et bien d'autres, et tu vas nous donner, tes lumières sur cette question. Si tu permets, je vais passer de ce côté. Voilà, donc.
Oui, nous sommes terriblement en retard. Je vais essayer de raccourcir un peu mon propos, mais malheureusement, je suis très faible dans l'improvisation, donc je ferai ce que je peux. Il est tout à fait indéniable que la question de la philosophie chrétienne est une des préoccupations qui accompagne et inquiète Gilson depuis les années 30 jusqu'à la fin de sa vie. Avec le thème de l'être et de l'essence, pouvons-nous affirmer, c'est indéniablement un des problèmes philosophiques qui caractérise la pensée gilsonienne. Pour cette raison, lorsque Alain de Libera m'a invité à participer à cette réunion qui célèbre la parution de la biographie intellectuelle de Gilson, il était clair que je devais parler de ce sujet qui non seulement est incontestablement un élément important de son parcours intellectuel, mais a provoqué un débat international significatif, comme nous allons le rappeler. Il est impossible de réfléchir, me paraît-il, sur l'héritage intellectuel et philosophique de Gilson sans se confronter à cette question. Il faut ajouter à cela que cette question du rapport entre le christianisme et la philosophie ne peut pas, d'une manière ou d'une autre, ne pas tourmenter ou inquiéter tout philosophe européen, au moins dans une perspective historique. Toutefois, comme il arrive souvent quand nous décidons pour des raisons affectives et amicales rapidement quelque chose, à peine avais-je accepté cette invitation que surgirent des doutes et des incertitudes terribles. En effet, j'ai grandi intellectuellement dans une université qui, dans les années 30, fut un des centres de résistance ténace à la doctrine gilsonienne de la philosophie chrétienne. De plus, j'avais moi-même publié en son temps plusieurs études qui mettent en évidence, plutôt positivement, cette opposition helvétique à la thèse gilsonienne. Comment dès lors prendre la parole lors d'un hommage à Gilson? Sans doute accepteriez-vous avec quelque hésitation et avec un sourire moqueur mon récit si je vous disais que l'enfant Jésus, écoutant les docteurs dans le temple, selon le récit de Saint Luc, m'a permis de dépasser mes scrupules et mes incertitudes. Pourtant, commentant ce passage évangélique sur l'enfant Jésus, Thomas d'Aquin le rapproche d'un verset des Proverbes. Audiens sapiens sapientior erit. En effet, le dominicain réfléchit, regardant le puer Jesus, sur les qualités de l'écoute. Et son commentaire, assez prodigieux d'ailleurs, contient deux éléments qui m'encouragent finalement à prononcer cette intervention, même si, éventuellement, je ne pourrais pas rejoindre sans quelques réserves la position de celui que nous tenons à honorer aujourd'hui. Parlant de celui qui s'est écouté, Thomas affirme d'abord « Debemus audire non solum ab uno, sed a multis » car ce que nous n'apprenons pas de l'un, nous l'apprenons de l'autre. Il convient donc de suivre plusieurs maîtres, doit-on conclure, selon Thomas. En outre, se souvenant de cette sentence que l'on attribue à Aristote concernant Platon et la vérité, le prédicateur poursuit que l'auditeur doit être un juge, et il conclut ce qui suit. Nul ne doit être considéré comme un ami quand il s'agit de la vérité. Il faut s'attacher uniquement à la vérité, car, selon le philosophe, la diversité des opinions ne porte pas tort à l'amitié. Je vais m'avancer en deux temps. Dans une première étape, je vais rappeler rapidement quelques repères historiques et chronologiques qui sont bien connus, certainement, mais qui permettent de nous situer dans le temps une orientation qui est toujours bénéfique. Dans un second moment, je vais tenter de circonscrire et de maîtriser le vaste problème de la philosophie chrétienne avec sa dimension historique, systématique et polémique en proposant 12 thèses que je vais brièvement commenter. J'espère que mes propos permettront de fixer quelques jalons, non pas pour une conclusion définitive, mais pour une poursuite de la réflexion, en m'inspirant de la parole de Gilson que j'ai retenue pour mon titre et qui est empruntée à une lettre adressée à Charles Dubos en mai 1930, lettre que nous connaissons grâce au travail remarquable de Florian Michel. « Nous tenons moins à la vérité qu'à la voie par laquelle nous l'atteignons. » Dans un premier temps, il faut donc établir un petit cadre chronologique des interventions gilsoniennes dans le débat autour de la philosophie chrétienne. Et il faut commencer avec cette note de Breillet dans son Histoire de la philosophie, où il dit « Nous espérons donc montrer dans ce chapitre et les suivants que le développement de la pensée philosophique n'a pas été fortement influencé par l'événement du christianisme. Et pour résumer notre pensée en un mot, il n'y a pas de philosophie chrétienne. » 1927. De manière indépendante, mais presque simultanément, l'expression de philosophie chrétienne s'impose à Étienne Gilson pour désigner l'entreprise de Thomas d'Aquin. En juin 1925, il rédige en effet une préface à la troisième édition de son thomisme, dans laquelle il désigne explicitement la démarche de Thomas d'Aquin comme philosophie chrétienne. On peut probablement donner raison à Henri Gouillet que Gilson a entrevu l'importance du sujet de la philosophie chrétienne avant les interventions de Breillet et l'article de celui-ci de 1931. Dans ce premier texte du thomisme, Gilson décrit de la manière suivante la philosophie chrétienne. « Entendons par là une philosophie qui veuille être une interprétation rationnelle du donné, mais pour qui l'élément capital de ce donné reste la foi religieuse dont la révélation chrétienne définit l'objet. » Dès ce moment, la problématique de la philosophie chrétienne n'a plus jamais quitté Gilson. Dans son parcours intellectuel, les Gifford Lectures, qu'il prépare en 1930, et qui paraîtront en 1932 sous le titre « L'esprit de la philosophie médiévale » occupe une place tout à fait à part en raison des deux premiers chapitres qui contiennent un des développements les plus complets sur le thème. Il faut en outre signaler l'exposé que Gilson a présenté lors de la mémorable séance de mars 1931 devant la Société française de philosophie. À ces deux textes essentiels, il convient d'ajouter le volume « Christianisme et philosophie » dont la première publication date de 1936, ainsi que les deux livres fondamentaux de 1960 qui soulèvent une nouvelle fois le problème. Je veux parler de l'opuscule « Introduction à la philosophie chrétienne » et de l'autobiographie intellectuelle portant le titre « Le philosophe et la théologie ». Ce débat provoqué par Gilson a été décrit et analysé de manière assez complète par la thèse de doctorat de Renard publiée en 1941 et ensuite, plus récemment, par un chapitre dans le livre de Paul Joliot, mais aussi par Schmidinger. Je crois que vous avez reçu la petite bibliographie que j'ai préparée. Je ne veux pas répéter ces deux travaux ou ces travaux méritoires et je m'arrête seulement à un aspect qui me paraît significatif et qui sera intéressant pour notre propre approche de la philosophie chrétienne selon Gilson. Je veux parler de réaction des thomistes. Sur ce point, il faut d'abord rappeler un élément du débat qui est négligé très souvent. Je veux parler de la contribution helvétique à ce débat, à savoir les interventions des professeurs de l'Université de Fribourg en Suisse. Si nous tenons compte que le père Mandonnet a passé une importante partie de sa carrière académique à l'Université de Fribourg, nous pourrions considérer comme fribourgeois sa prise de position virulente contre la position gilsonienne lors de la deuxième journée d'études de la Société thomiste en 1933, réunion consacrée au thème de la philosophie chrétienne. Mandonnet affirme, lors de cette réunion, avec une certaine brusquerie et sans détour, que le christianisme, je cite, « n'a pas transformé la philosophie » et que, je cite, « dans le domaine rationnel, il n'y a rien de plus que ce que la raison lui donne. » Il y a bien des chrétiens, selon Mandonnet, qui ont fait de la philosophie, mais en droit, il n'y a pas de philosophie chrétienne. Je voudrais aussi mentionner l'article de 1936 du père Marc-Marie de Meninck, dominicain et professeur de philosophie à Fribourg, intitulé « Philosophie et Weltanschauung ». Ce professeur belge défend vigoureusement l'idée que la philosophie est purement rationnelle et contre l'idée d'une philosophie chrétienne, il rappelle que saint Thomas a vaillamment lutté pour dégager de confusion séculaire la notion de philosophie. Je cite, « La philosophie, dans ses données comme dans ses méthodes, est purement rationnelle ou elle n'est pas. » Plus significatif encore est la prise de position de Gallus Manser, dont le fameux ouvrage sur l'essence du thomisme, « Das Wesen des Thomismus », a connu une grande diffusion. Manser conçoit le thomisme comme un système qui est au-delà du temps, comme la raison elle-même. Cette conception de la philosophie et de son rapport à l'histoire explique aussi la prise de position décidée dans le débat sur la philosophie chrétienne. L'homme d'Appenzell a consacré au problème deux articles vigoureux et s'il combat la notion même de philosophie chrétienne, c'est à mon avis parce qu'elle accorde une par trop importance au contexte historique. La pure évidence rationnelle qui, selon lui, donne à la philosophie son unité est exempte de toute contamination historique. Mais l'attaque la plus frontale et la plus intense de la position gilsonienne vient de l'autre école thomiste, celle de Louvain. Fernand van Steenbergen commence son long combat contre la position gilsonienne avec un bref mais très énergique compte-rendu de la séance de Juvisy de 1933. Il insiste sur le fait que l'exactitude du langage est une condition préalable à toute démarche philosophique sérieuse. Par conséquent, il est indispensable, selon lui, d'éviter l'expression même de philosophie chrétienne, car, dit-il, elle est de nature à brouiller des choses qui ne sont déjà que trop confondus. Il faut se garder de favoriser la confusion de la philosophie et de la théologie. Un tel amalgame représente un danger, dit van Steenbergen, que même les médiévaux n'ont pas toujours su éviter. À strictement parler, jamais la philosophie ne sera chrétienne, car la philosophie est rigoureusement et exclusivement rationnel dans son exercice et dans son résultat. Par conséquent, la philosophie d'un chrétien, dit-il, n'a rien de spécifiquement distinct d'une autre philosophie. Et si l'on veut parler d'influence du christianisme sur le philosophe, elle n'est que d'ordre psychologique. J'ai rappelé ces prises de position car elles vont permettre de mieux apprécier la valeur et l'approche de Gilson. J'arrive donc à la partie principale de mon exposé qui consiste, comme annoncé, à de délimiter, caractériser et saisir les aspects et les dimensions essentielles du problème à la fois historique et théorique qui nous occupe. Je m'efforce donc de formuler 12 thèses. Le syntagme philosophie chrétienne s'impose à Gilson en raison de ses travaux historiques sur la philosophie de la pensée médiévale, de la période médiévale. Il me paraît indéniable que les travaux de Gilson, que Gilson a consacrés aux philosophes et à la philosophie médiévale, notamment la philosophie du Moyen-Âge 1922, la philosophie de Saint Bonaventure 1924 et l'introduction à l'étude de Saint Augustin 1929, l'ont amené à s'interroger sur la possible unité de la pensée de ces auteurs, l'ont en quelque sorte forcé de chercher ce qui est commun à ces approches de la vérité. Le titre de l'ouvrage « L'esprit de la philosophie médiévale » de 1932 résume cet effort de synthèse et il est arrivé à la conclusion que la spécificité et l'originalité de la pensée qui va d'Augustin à Nicolas de Cuse est parfaitement saisie par la notion de philosophie chrétienne, étant entendu que, je cite, « formellement identique à celle du païen, la raison du chrétien se trouve placée dans une situation différente de celle du païen. » Le premier aspect significatif que je tiens donc à relever et à souligner est par conséquent le fait que le point de départ, la source et le fondement premier de la réflexion gilsonienne sur la philosophie chrétienne sont historiques. Nous pourrions dire que la notion de philosophie chrétienne, chez lui, est le résultat d'une démarche historique. Elle repose sur une analyse de la rencontre entre les doctrines chrétiennes et la philosophie héritage de la culture grecque. Les études historiques ont amené Gilson à identifier la profonde influence de la pensée chrétienne sur le développement de la pensée européenne. Lors de la fameuse séance de 1931 de la Société française de philosophie, Gilson invite ses interlocuteurs de ramener le problème sur le plan historique. Et il entend montrer que cette rencontre entre le christianisme et la philosophie a profondément influencé et transformé le développement de la pensée philosophique en Europe. Il s'agit alors de savoir si le christianisme a joué un rôle observable dans la constitution de certaines philosophies, s'il existe des systèmes philosophiques purement rationnels dans leurs principes et leurs méthodes, dont l'existence ne s'explique pas sans l'existence de la religion chrétienne. Les philosophies qu'ils définissent méritent le nom de philosophie chrétienne. À maintes reprises, Gilson a souligné cette seconde dimension historique liée à la notion de philosophie chrétienne, soulignant ainsi l'étonnante fécondité philosophique de l'interaction entre christianisme et philosophie. Je cite encore, « En d'autres termes, le Moyen-Âge a peut-être pas été si philosophiquement stérile qu'on le dit, et c'est peut-être à l'influence prépondérant exercée par le christianisme au cours de cette période que la philosophie moderne doit quelques-uns des principes directeurs dont elle s'est inspirée. Comme il le souligne, le processus ou l'interaction dont on parle lorsqu'on utilise la notion de philosophie chrétienne, est une réalité d'une grande complexité. Cette notion ne correspond donc pas au concept d'une essence pure, celle du philosophe ou celle du chrétien, mais à la possibilité d'une réalité historique complexe, celle d'une révélation génératrice de raison. Les deux ordres restent distincts, bien que la relation qui les unit soit intrinsèque. La deuxième dimension de la réflexion gilsonienne sur la notion qui nous préoccupe est encore d'ordre historique, et nous pouvons dire que cette notion s'est imposée à lui pas seulement comme clé herméneutique pour l'interprétation de la pensée médiévale, mais encore et surtout pour désigner, je cite, « l'influence exercée par la révélation judéo-chrétienne sur l'orientation de la pensée occidentale ». Autrement dit, il devient, je cite, « infiniment probable que la notion de philosophie chrétienne a un sens parce que l'influence du christianisme sur la philosophie est une réalité. » Nous avons jusqu'à présent essayé de cerner de plus près ce que l'on peut appeler la genèse de la réflexion gilsonienne sur la notion de philosophie chrétienne. Il convient à présent de nous interroger sur le contenu exact de ce syntagme. Nous tenons ici, je crois, un exemple parlant et remarquable de ce que Florian Michel désigne avec bonheur le recours gilsonien à l'histoire en vue de la philosophie. La philosophie chrétienne admet la révélation comme auxiliaire de la raison. Dès l'exposé fondamental dans l'esprit de la philosophie médiévale, Gilson identifie la relation spécifique entre la philosophie et la révélation comme ce que nous pouvons appeler la différence spécifique de la philosophie chrétienne. J'appelle donc philosophie chrétienne toute philosophie qui, bien que distinguant formellement les deux ordres considérés, considère la révélation chrétienne comme un auxiliaire indispensable de la raison. Nous pouvons dès lors préciser le rôle de l'adjectif dans le syntagme philosophie chrétienne. Selon les adversaires de la philosophie chrétienne, comme Van Steenbergen par exemple, cet adjectif remplit la fonction d'une dénomination extrinsèque, n'affectant en rien la nature désignée par le substantif. Il en va autrement pour Gilson, car si la relation à la révélation est réelle, elle concerne bien la philosophie elle-même. Nous pouvons donc parler d'une antériorité de la foi en philosophie chrétienne et admettre l'expression « fides querens intellectum » disant qu'elle résume parfaitement la démarche de cette philosophie telle que Gilson la conçoit. Le cas de la révélation du nom de Dieu en Exode 3,14 est ici paradigmatique pour la conception de Gilson. Parce que, selon Gilson, Dieu s'est révélé comme celui qui est, la métaphysique peut se développer. L'Écriture affirme que le nom propre de Dieu est « qui est » et donc, argumente Gilson, « parce qu'elle le dit, je le crois, pendant que j'adhère ainsi à l'objet de la foi, l'entendement fécondé par ce contact pénètre plus avant dans l'intellection de la notion première d'être. D'un seul et même mouvement, il découvre, dans le sens philosophique du premier principe, une profondeur imprévue et conquiert une sorte d'intellection imparfaite mais vraie de l'objet de la foi. Ce cas précis où la spéculation philosophique se développe à la lumière d'une parole de la Bible est exemplaire selon Gilson. Ainsi, nous pouvons saisir le mouvement distinctif de la philosophie chrétienne et comprendre dans quel sens on peut dire que la révélation est génératrice de raison, parce qu'elle ouvre une voie que la raison par elle-même n'aurait pas découvert, mais qu'elle peut ensuite suivre en respectant ses propres règles et prescriptions. Je cite, « La philosophie n'est pas moins philosophie quand elle est chrétienne que lorsqu'elle est païenne. Elle ne l'est pas non plus davantage mais elle l'est mieux. Certaines formulations concernant la relation entre la philosophie et la foi chrétienne sont plus restrictives, plus strictes et, dans un sens, plus problématiques. La philosophie chrétienne admet la fonction régulatrice du dogme chrétien. La philosophie chrétienne est donc une manière précise et bien déterminée de philosopher, profondément marquée, comme il le dit lui-même, du sceau de la religion chrétienne. Cela signifie cependant que le dogme chrétien ne joue pas uniquement un rôle d'inspiration qui ouvre des perspectives, mais occupe aussi un rôle de contrôle. Quand Gilson affirme que la philosophie chrétienne, je cite, « sera donc liée à l'autorité enseignante de l'Église », il admet par conséquent une sorte de contrôle et de correction. La thèse 5 est comme une conséquence de ce que nous venons de rappeler. La philosophie chrétienne est identique à la philosophie dont parle Léon XIII dans l'encyclique Eterni Patris. À ce propos, il est éclairant de rappeler un élément autobiographique gilsonien qu'il révèle pour la première fois dans Christianisme et philosophie, mais qui sera rappelé en 1960. Dans cette page étonnante, Gilson dit avoir rédigé la majeure partie des Gifford Lectures sans songer à la notion de philosophie chrétienne. Ayant compris qu'elle permettait d'unifier son sujet, il a ensuite composé les deux premiers chapitres qui contiennent l'exposé le plus complet sur le sujet. J'étais assez content de ma découverte lorsqu'en étudiant ensuite les documents relatifs à cette notion, en rencontrant l'encyclique Eterni Patris que j'avais totalement oublié, je me suis aperçu que ce que j'étais en train de prouver en deux volumes, 20 leçons et je ne sais pas combien de notes, était exactement ce que cette encyclique aurait suffi à m'enseigner, y compris l'interprétation même de la philosophie médiévale que je proposais. Cette rencontre avec l'encyclique fut véritablement décisive pour notre historien et philosophe. Elle déterminera désormais toutes les prises de position sur le thème. Il n'est pas surprenant de constater que, dans l'ouverture de l'introduction à la philosophie chrétienne de 1960, Gilson affirme la parfaite conformité de sa conception de la philosophie chrétienne avec celle de Léon XIII. Sa conviction était pourtant déjà cimentée en 1936, lorsqu'il déclarait que la philosophie chrétienne n'est possible que dans le catholicisme et qu'elle y est indispensable. Gilson a résumé avec une grande clarté ce qui, à son sens, est l'enseignement fondamental de l'encyclique auquel il adhère sans restriction. Ceux qui joignent à l'étude de la philosophie la soumission à la foi chrétienne sont ceux qui philosophent le mieux possible, puisque la splendeur des vérités divines accueillies par l'âme est l'intelligence elle-même, à laquelle non seulement elle ne retire rien, mais ajoute beaucoup de noblesse, de pénétration et de fermeté. Ce passage est une sorte de paraphrase d'un passage de l'encyclique. Les thèses 6 et 7 forment une unité, l'une étant comme une précision de l'autre. La philosophie chrétienne a été réalisée de manière exemplaire par Thomas d'Aquin. Gilson a progressivement identifié la philosophie chrétienne avec la philosophie de l'être de Thomas d'Aquin. Il y a un grand nombre de passages qui peuvent confirmer l'exactitude de ces deux thèses. Je retiens d'abord une remarque plutôt personnelle dans Le philosophe et la théologie. Rapportant mon expérience, je dis donc seulement que si j'avais trouvé quelque chose de plus intelligent et de plus vrai que ce que Thomas a dit de l'être, je me serais empressé d'en faire part à mes contemporains. Ce qui, d'un point de vue systématique et décisif, est le fait du lien direct entre la doctrine thomiste de l'être et la conception de Dieu qui, elle, vient directement de l'Écriture et qui est la pierre d'angle de la philosophie chrétienne. Je cite, esprit de la philosophie médiévale, « Il n'y a qu'un Dieu, et ce Dieu est l'être, telle est la pierre d'angle de toute la philosophie chrétienne, et ce n'est pas Platon, ce n'est pas Aristote, c'est Moïse qui l'a posé. » Inutile de préciser devant un public averti, comme vous l'êtes, que cette notion thomiste Dieu, venant de l'Exode selon Gilson, incluant l'identité de l'être et de l'essence en Dieu, implique que tout le reste est nécessairement composé d'être et d'une essence autre que cet être. Nous atteignons là, je crois, le cœur à la fois de la pensée philosophique de Gilson et de sa conception de la philosophie chrétienne. Avec la thèse 8, nous touchons en revanche un projet plus large que Florian Michel a désigné par « bâtir la chrétienté », précisant que nous pourrions parler d'une dimension curative de la notion de chrétienté qui serait un antidote idéologique aux maux de l'heure. Il faut envisager la doctrine de la philosophie chrétienne en relation avec l'effort gilsonien pour le renouveau du catholicisme. Nous avons jusqu'à présent envisagé certaines données qui peuvent expliquer la genèse de la doctrine sur la philosophie chrétienne. Nous avons tenté d'en décrire certains aspects. Toutefois, je crois qu'il faut établir un lien entre la démarche strictement philosophique de Gilson et son engagement en faveur d'un renouveau du catholicisme qui trouve notamment son expression dans les nombreux articles dans la revue 7 et dans le petit écrit intitulé « Pour un ordre catholique » qui date de 1934. Il est patent que la biographie de Florian Michel nous permet de mieux entrevoir cet engagement et la réédition de l'opuscule par le père Humbrecht est fort utile à ce propos. Les diagnostics de la société française comme état païen et de l'éducation nationale comme institution païenne explique l'engagement de Gilson pour l'école catholique. Je crois qu'il est indiqué d'établir une relation, pas seulement chronologique, mais aussi intellectuelle, entre le combat pour la philosophie chrétienne et l'engagement gilsonien pour une prise de conscience des catholiques français qui l'interpellent en leur disant qu'il faut prendre conscience de nos principes, les affirmer, unir nos forces pour les mettre en œuvre. Ce qu'il affirme dans le petit opuscule « Philosophie et christianisme » de 1936 est une déclaration qui réunit à la fois le programme de la philosophie chrétienne et l'engagement pour un ordre catholique. Vivre en chrétien, sentir en chrétien, penser en chrétien dans une société qui n'est pas chrétienne, alors que nous ne voyons, n'entendons et ne lisons presque rien qui n'offense le christianisme ou ne le contredise. La doctrine de la philosophie chrétienne est à mon avis un exemple privilégié qui manifeste la fameuse soudure qui échappe à Marc Bloch entre l'universitaire honorable et le militant catholique et que Florian Michel a voulu mettre en avant dans sa remarquable biographie intellectuelle, puisque cette doctrine de la philosophie chrétienne cherche à unifier le projet de vivre en chrétien et de penser en chrétien. Si nous posons à présent la question « Quelle est la signification de la doctrine gilsonienne pour le développement de l'histoire de la philosophie ?» on peut d'abord rappeler ce que Jean-Luc Marion en disait en 1979, qu'il a rendu à l'histoire de la philosophie la dignité d'un acte authentiquement philosophique, car comme nous l'avons déjà dit, Cette réflexion sur la notion de la philosophie chrétienne est un exemple éloquent de ce que on peut appeler le recours gilsonien à l'histoire en vue de la philosophie. De manière plus concrète et rapportée à notre sujet, je dirais la conception de la philosophie chrétienne de Gilson dépasse la rigidité d'une philosophia perennis anhistorique. Si nous examinons avec attention et sans complaisance les réactions néoscolastiques, disons de Van Steenbergen et de Manser, à l'interprétation de la notion de par Gilson, nous pouvons observer que les deux représentants les plus illustres, je veux dire donc Van Steenbergen et Manser, en parlant de la raison et de son autonomie, ont en fait en vue une raison, certes indépendante, mais surtout libre de tout conditionnement historique, soit du philosophe, soit de la philosophie elle-même. Il me semble qu'Henri Gouillet, à qui nous devons une des études les plus nuancées et les plus instructives sur notre sujet, a parfaitement exprimé ce que je vise en mettant en avant ce qui, du point de vue de l'histoire de la philosophie, est à mon avis l'apport principal de Gilson en relation avec notre sujet. Selon lui, Gilson, en réfléchissant sur la philosophie chrétienne, a attiré l'attention sur les conditions de fait dans lesquelles s'exerce la raison. L'expression que je viens de citer est de Gilson et, selon Gouillet, sa signification est capitale, car on passe de l'exercice théorique de la raison pure à l'exercice pratique de la raison dans son contexte historique. Il s'agit ici d'une perspective qui, indépendamment du problème de la philosophie chrétienne, possède une portée pour tout le travail en histoire de la philosophie. Si, sans doute, Gilson n'a pas exploré toutes les dimensions de cette contextualisation historique de la raison, il a, à l'aide d'un cas précis, ouvert une interrogation qui peut modifier l'historiographie de la philosophie. La doctrine gilsonienne de la philosophie chrétienne attire l'attention sur le multiple conditionnement de la philosophie et du philosophe. Si l'on me demandait donc ce que l'on doit retenir de la thèse gilsonienne sur le syntagme philosophie chrétienne, je répondrais par cette thèse. Toutefois, on ne peut en rester là, et il est nécessaire de s'interroger sur la manière dont est conçu le rapport entre foi et raison, révélation et philosophie dans sa pensée. Et il faut, comme le titre du dernier chapitre de l'autobiographie intellectuelle l'indique, songer à l'avenir de la philosophie chrétienne. Quant au premier de ces deux points, je crois qu'il est indispensable de rendre attentif à une difficulté aussi délicate qu'importante. Je veux parler des conceptions impliquées dans la démarche gilsonienne de la révélation, du dogme et du rapport entre foi et raison, qui ne tiennent pas, je crois, suffisamment compte de la complexité de ces phénomènes. Cela vaut en particulier en ce qui concerne la révélation. Celle-ci, du moment que l'on admet sa possibilité, doit nécessairement s'articuler dans le langage humain et être compris par l'intelligence humaine. Par conséquent, son message est, comme son interlocuteur, la raison, soumis au conditionnement historique. Il me semble que la conception de la révélation à laquelle Gilson se réfère ne tient pas suffisamment compte de ce conditionnement historique du dogme chrétien et du fait que son devenir et son articulation sont déjà liés à une interaction entre les données révélées et la raison, plus précisément même la philosophie. L'exemple de l'Exode 3.14, si fondamental pour la philosophie chrétienne au sens de Jules Sang, est à ce sujet très éclairant. Il suffit déjà de rappeler que le texte hébreu ne s'accorde que difficilement avec l'exégèse que l'on peut entreprendre à partir de la Septante et de la Vulgate. Je pense donc que nous pouvons formuler la thèse 11. La conception gilsonienne de la philosophie chrétienne repose sur une conception spécifique de la révélation et du dogme chrétien. Une approche critique de la conception gilsonienne de la philosophie chrétienne serait obligée de s'interroger sur ce qu'il faut entendre par révélation quand il est dit que celle-ci est un auxiliaire de la raison. En plus de la reconnaissance de la révélation génératrice de raison, il conviendrait de s'interroger sur le rôle de la raison dans l'articulation et le développement des doctrines chrétiennes. Au lieu d'un paradigme qui ne tient compte que d'une fonction régulatrice de la foi par rapport à la raison, il conviendrait donc d'admettre plutôt une certaine réciprocité accordant à la philosophie un certain droit de regard. Il faut ici noter que l'ami de Gilson, Paul Vignot, qui a pris position à un moment relativement tardif sur le thème qui nous intéresse, Vignot a critiqué les thèses de Gilson qu'il qualifiait d'une méditation théologique d'historien de la philosophie, et il rejette la notion qui est, dit-il, non philosophique parce que liée à une certaine théologie, à une conception déterminée de rapport entre la nature et la grâce. Pour ma part, je pense que l'on peut, comme le suggère Emilio Brito dans un article riche et suggestif, se poser la question de l'avenir d'une philosophie chrétienne, mais cela nécessite une évaluation critique de l'affirmation gilsonienne qui dit que la philosophie chrétienne est, je cite, « une histoire qui se déroule à partir d'un terme immuable situé hors du temps et par là sans histoire ». Cela voudrait dire qu'elle serait le développement, selon Gilson, à partir d'une vérité qui n'est pas elle-même susceptible de progrès. Comme je le disais déjà, je me demande s'il ne faut pas viser une sorte de réciprocité où la raison accepte de reconnaître ce qu'elle n'a pas découvert elle-même et la foi accepte d'écouter les questions qui surgissent d'ailleurs. Je me permets de revenir à la citation que Thomas explique pour expliquer l'attitude de l'enfant Jésus. Audiens sapiens sapientior erit. Dans cet esprit, je formule la dernière thèse avec laquelle je souhaite terminer mon propos. Un renouveau de la notion de philosophie chrétienne ne devrait pas négliger et méconnaître la fonction et la tâche critique de la philosophie en relation avec les doctrines religieuses. En guise de commentaire, j'ajoute simplement cette double question que Gilson pose lui-même à propos du rapport entre théologie et philosophie chez saint Thomas. De ce qu'enseigne la théologie, science surnaturelle en ses principes, la philosophie n'aura-t-elle rien à dire? Et de ce qu'enseigne la philosophie qui procède de la raison naturelle, la théologie ne pensera-t-elle rien? Saint Thomas, du moins, affirme exactement le contraire, car il maintient si fermement la distinction formelle des deux lumières et des deux sagesses que, pour mieux leur permettre de collaborer sans confusion possible, mais sans faux scrupules et intimement. Je vous remercie de votre patience.